France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, c'est l'heure de l'apéro avec un auteur de théâtre, comédien, metteur en scène. Il propose un théâtre politique et comique et populaire. Je vous propose d'accueillir Samuel Valency. Déjà là, devant le bistrot sous le soleil.
C'est ça.
Et bonjour Samuel.
Bonjour Charlie.
Valency.
C'est ça, c'est comme ça qu'on dit.
Ah oui, parce que moi j'étais partie en Valency, Valency.
C'est un nom d'origine tunisienne, donc ça s'improvise un peu.
Il y a des Valency en Tunisie.
Ouais, il y a des Valency en Tunisie. Avant ils étaient en Espagne, puis en Italie, puis en Tunisie. C'est une longue histoire.
Attendez, on a 35 minutes.
Bon, bah c'est pas mal déjà.
Bah, allez, c'est pas mal. On y va alors.
Merci.
Venez dans mon bistrot.
Charlie Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Samuel Valency, vous êtes auteur, metteur en scène et comédien de théâtre. Votre théâtre est populaire sur des sujets politiques. Et moi, je dis toujours que vos pièces, elles sont aussi comiques qu'engagées, qu'on en sort moins, qu'on moins dupe. Je les vois comme des grandes chroniques chorales d'humour politique. Ça me parle beaucoup, évidemment. Et à nos auditeurs aussi, je pense. Avec Made in France, vous êtes éligible aux Molières. C'est une pièce dont le thème est la fermeture d'une usine. Avec Coupure, vous avez triomphé à Avignon et partout en France. Là, c'est le thème, c'est un jeune maire agriculteur écolo. Et ces deux pièces se jouent en ce moment. D'abord, je voudrais qu'on éclaircisse un point, cher Samuel. Un point important à mes yeux, au moment où nous sert un petit café du samedi soir.
Oui, dites-moi.
Vous sortez de HEC.
Ouais.
Mais en plus, vous avez découvert le théâtre à HEC.
C'est ça.
Comment est-ce possible ?
Je suis un repenti d'HEC, on peut dire ça comme ça. Ouais, je suis d'une famille où le travail, c'est très important. Mon père est d'origine tunisienne, ma mère d'origine polonaise. C'est des gens qui se sont vraiment intégrés par le travail. Ils ont fait des classes préparatoires, ils sont devenus vétérinaires. Ouais, c'est très important pour eux, la réussite scolaire, le fait de s'intégrer, etc. Donc, ils m'ont transmis ça. Et donc, ne sachant pas trop quoi faire en fin de lycée et ayant des bons résultats à l'école parce que j'avais des parents qui me poussaient fort, j'avais pas trop le choix en fait, ben, je me suis retrouvé en classe préparatoire à HEC parce qu'on me disait ça ouvre toutes les portes. Et puis à HEC même, et là j'ai vécu ce qu'on appelle la désillusion, c'est-à-dire que j'imaginais que ce serait le Graal et tout, et moi j'ai trouvé les études assez sèches, assez normatives. Et donc pour me sortir la tête de là, j'ai fait deux trucs, je suis allé m'inscrire à la fac de philo pour avoir un emploi du temps aménagé, et puis j'ai commencé à m'impliquer dans la comédie musicale de l'école, backstage.
Hop, attendez là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des comédies musicales à HEC?
Tout à fait, ouais, tout à fait, il y a des comédies musicales, et je pense que les vidéos de l'époque datent, elles coûtent très cher, quoi.
Mais ça ressemble à quoi une comédie musicale à HEC? C'est quoi les thèmes? L'opéa imaginaire, Roméo et la dette?
C'est de piètre qualité, avec un engagement féroce.
Alors maintenant, Samuel Valency, comment est-ce qu'on passe de HEC à assistant de Philippe Tesson, célèbre journaliste de théâtre, propriétaire du théâtre de Poche-Montparnasse, là où vous avez fait vos classes?
Parce que mon père est vétérinaire, ça je vous l'ai déjà dit.
Ouais.
Et en fait, mon père soignait les chats de Philippe Tesson. Et
vous avez été pistonné par les chats de Philippe Tesson.
Complètement pistonné par deux chats adorables qui m'ont amené dans le bureau de Philippe Tesson. Et donc, grâce au chat de Philippe Tesson, j'ai rencontré Philippe Tesson. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai eu un entretien complètement lunaire avec un type incroyable, un peu fou. Il m'accueille comme ça. Il fait « Votre père, il parle de vous comme le génie des Carpates. » En fait, c'était un test. Le génie des Carpates, c'est Ceausescu, mais moi, j'en sais rien du tout. Donc, je suis là « Oui, oui ». Je passe complètement à côté du truc. Mais l'entretien se passe quand même bien. Et il venait de racheter le théâtre de Poche. Et à la fin, il me dit « Bon, attendez. » Et il décroche son téléphone et il appelle Charlotte Rondelay, la directrice du Poche, à l'époque, qui maintenant dirige le théâtre de l'œuvre où on joue en ce moment d'ailleurs. Et il dit « Oui Charlotte, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « assistant de production. Est-ce qu'on a un assistant de production ?» Bon, bah maintenant on en a un. Et il raccroche et hop, je commençais lundi quoi.
Wow.
Et c'était complètement fou. Et là, pendant un an, je me retrouve petite main. Donc je fais tout. Je fais la com, les RP, je fais les dossiers de présentation, je fais les devis budgétaires et tout ça. Enfin, vraiment, je suis un peu sur tous les fronts. Et ce qui est génial, c'est que comme Philippe est un vieux journaliste de théâtre, qu'il avait une culture extraordinaire, qu'il avait vu, je sais pas, je crois que j'avais calculé, il a vu 10 ou 15 000 pièces, un truc complètement fou, quoi. En fait, il y avait tous les acteurs du théâtre public, les anciens du théâtre public, il y avait Jean-Louis Benoît qui venait répéter, il y avait Catherine Yégel, Judith Magre, Catherine Salvia et tout, et moi j'allais dans les loges, dans les coulisses, regarder les gens travailler, donc en petite souris, comme ça j'ai pu regarder des gens faire du théâtre.
Ouais, grâce
exactement,
au chat.
En petite souris grâce au chat.
Et puis vous montez votre compagnie que vous baptisez La Poursuite du Bleu.
Ouais, La Poursuite
c'est
du
une,
Bleu.
C'est une référence à quoi, La Poursuite
c'est
du Bleu?
C'est une référence à Romain Gary. En fait, dans tous les romans de Romain Gary, dont je suis un très grand fan, il y a une référence à la quête de l'absolu qui nous anime toutes et tous, et particulièrement les artistes. Et pour donner du contexte, il dit sur les cerfs-volants, c'est... on a peur de laisser ces cerfs-volants décoller trop haut, de les lâcher et qu'ils partent à la poursuite du bleu. Et donc La Poursuite du Bleu, c'est la quête de l'absolu dans Les cerfs-volants, c'est son dernier roman. Donc c'était un peu un non-hommage, quoi.
Ça vous met la barre très haut pour vos pièces de théâtre, évidemment.
Ouais, bah j'y suis pas.
Hein. Attendez, c'est pas fini. Et c'est pourtant Steinbeck qui change votre vie.
Ouais, c'est vrai, parce que, en fait, quand je termine ma première année d'HEC, je me dis, ah bah tiens, j'ai fait la comédie musicale de l'école, je ferais bien plus de théâtre, quoi. Je suis vraiment tombé amoureux du plateau. Et je suis allé un peu comme un mec qui sait pas comment on fait sur casting.fr. Là, j'ai payé 19,99€ par mois. Et puis, j'ai passé des auditions de pièces amateurs, de théâtre universitaire et tout. Et là, dans les auditions que je passe, il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Balaguer qui monte à l'époque Des Souris et des Hommes en théâtre universitaire. Donc, on va dire, semi-amateur, quoi, et il monte une grosse équipe pour le faire. Et comme je jouais de la guitare, comme je faisais de la musique, je faisais du blues, il cherchait un narrateur qui faisait du blues au plateau pour adapter le roman, quoi. Et j'ai dit, bah génial. Et en fait, je suis parti dans cette aventure-là. Et là, ça a été aussi un petit choc esthétique parce que Steinbeck raconte ma désillusion que j'ai vécue à HEC, c'est-à-dire on est tous bloqués dans une espèce de monopoly auquel on veut pas jouer. Mais on y est tous contraints et ce monopoly nous atomise les uns les autres. C'est ce que j'essaie de raconter moins bien que Steinbeck dans mes pièces de théâtre. Mais voilà, je m'y attelle et ça a été ma rencontre avec cette thématique-là, de me dire en fait la littérature peut être un grand simulateur social qui nous permet de raconter cette partie qu'on joue toutes et tous, quoi.
Donc vos pièces font une forme de déclinaison de l'esprit de Steinbeck. Vous dites aussi que c'est votre maître dans votre volonté de faire du théâtre politique, mais non politisé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bah pour moi, le théâtre, c'est un lieu de conflit. C'est-à-dire que, en fait, c'est un lieu déjà où le conflit permet de faire avancer les histoires. Si on imagine l'histoire de Made in France, que c'est un mec qui vient dans une usine pour faire sa réinsertion, et l'usine, elle marche très bien, et il est embauché, puis il a même une promotion, bon, bah, c'est chiant comme histoire. Mais si, comme dans Made in France, le mec, il arrive, et il est là pour faire son premier jour, en fait, on lui annonce, c'est même lui qui annonce la fermeture de l'usine parce que délocalisation, bon, bah là, sa réinsertion devient impossible, et il y a un conflit, et il y a du théâtre qui est possible. Et donc, moi, ce que je veux faire avec mes spectacles, c'est de raconter les conflits qui traversent notre société, le faire avec mon point de vue bien sûr, mais pas donner mon avis, laisser au spectateur la place de décider ce qu'il a reçu. Je suis pas là pour lui dire à la fin d'un spectacle, bah tu devrais faire ça, va voter pour un tel ou non. Moi je présente avec ma sensibilité les conflits qu'on traverse toutes et tous, et je crois que le conflit principal c'est notre dissonance cognitive, c'est-à-dire personne se lève le matin avec l'envie de réchauffer de 3 ou 4 degrés le climat. Il y a aucun directeur d'usine qui se lève le matin en se disant je veux licencier tout le monde, et pourtant la partie de monopoly en cours, parce qu'on vit dans une société qui est productiviste, qui est extractiviste, bah ça nous pousse à faire ça, et ça nous rend parfois un peu mélancolique, donc voire très malheureux. Et donc moi j'essaie de raconter ça, mais de façon décalée et drôle, quoi.
Comme ça la tragédie devient un peu comédie.
Exactement, exactement.
Donc c'est un théâtre qui n'est pas un lieu de propagande, mais un lieu de représentation du conflit. C'est ça votre mantra.
Ouais.
Vous avez évoqué Made in France, parlons-en. C'est cette pièce qui se joue en ce moment au Théâtre de la Renaissance jusqu'à fin avril. Ensuite, vous la rejouerez à Avignon et vous partirez en tournée dans toute la France, en Belgique et en Suisse.
Voilà, un petit peu chez vous aussi.
Et donc, l'histoire, c'est Émile qui sort de prison, qui est embauché pour faire le ménage dans une usine dont il découvre qu'elle va fermer. Ça part sur un quiproquo digne d'un vaudeville, parce qu'il y avait un peu cette tonalité. Là, vous faites un théâtre populaire, donc c'est très marrant. Il est propulsé à la tête du syndicat et va tout faire pour sauver l'usine.
C'est ça.
On va croiser donc le patron, le ministre de l'économie, sa communicante, les ouvriers, les leaders syndicaux et même un président de la République. Alors, quels sont les rapports de force qu'on peut voir dans Made in France?
Bah en fait, une usine qui ferme, c'est un lieu hyper shakespearien, au sens où il y a des conflits dans tous les sens. C'est-à-dire que les ouvriers sont rarement d'accord avec les syndicats sont pas d'accord avec la direction est souvent l'otage du groupe qui détient l'usine. Le groupe qui détient l'usine veut pas qu'un repreneur arrive parce que bah, ils veulent pas vendre à un concurrent pour délocaliser. C'est pas juste, parce que bah, l'idée de délocaliser, c'est de pouvoir vendre moins cher en vendant ailleurs. Mais s'il y a un concurrent qui arrive, qui reste sur le territoire, qui, pour une raison ou une autre, aura les faveurs du gouvernement, ça va leur mettre une épine dans le pied. Donc ils veulent pas d'un repreneur. Donc en fait, le repreneur se retrouve opposé à eux. Et puis parfois, pour peu qu'on se retrouve dans une période d'élection présidentielle, comme on l'a vécu chez Alstom, chez Whirlpool ou tant d'autres, il y a le politique qui s'en mêle. Et là encore, il y a d'autres conflits qui arrivent. Donc en fait, c'est vertigineux le nombre de conflits qu'il y a déjà entre les individus. Et en plus, ce que je disais, c'est que la plupart des individus sont scindés en deux. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'ils aimeraient faire. Et puis la réalité qui s'impose à eux, ils doivent ménager avec ça.
J'y ai vu, moi, la période Hollande-Montebourg. Alors, je veux dire que la pièce, ouais, elle traverse les périodes. C'est-à-dire que vous regardez les choses avec tellement de hauteur que c'est pas forcément la représentation d'un cas en particulier.
Pour tout vous dire, moi, à la base, avec mon co-auteur Paul-Éloi Forget, je voulais raconter l'histoire des Fralib, qui sont des salariés qui se sont battus pendant plus de 3 ans contre Unilever et qui ont racheté leur usine pour 1 euro et qui en ont fait une coopérative. Donc moi, à la base, je voulais raconter un truc, pas forcément une comédie, mais un truc positif, une grande histoire, une épopée, etc. Et en fait, on a rencontré leur avocat, et leur avocat, il nous a dit le droit du travail a tellement changé qu'aujourd'hui, quand un groupe a décidé de fermer une usine, il n'y a quasiment plus rien à faire. Le droit est du côté de la fermeture, les salariés savent que le mieux qu'ils ont à faire, c'est de négocier leur départ. Et j'ai dit non, mais je vais pas raconter ça, enfin c'est plombant comme tout, si je raconte ça sérieusement, on va nous prendre pour des fous, quoi. Et il me dit racontez ça comme un fou, vous serez peut-être pris au sérieux. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a dit ok, on va faire une grande comédie dans cette tragédie impossible. Ah,
ouais,
quoi.
Ouais. Parce que vous vous documentez beaucoup.
Ouais.
Vous enquêtez comment?
J'ai une indignation quand je vois ce qui arrive aux salariés d'une usine qui ferme. Moi, mon point de départ, c'est quand même l'humain et l'indignation de comment on traite les gens dans cette partie. C'est quand même pas très joyeux. Je prends 6 mois, 1 an pour aller dans la complexité. Et donc, avec mon co-auteur, on va interviewer plein de gens. On est allé interviewer un député Les Républicains qui s'appelait Olivier Marleix, qui s'est suicidé l'été dernier, qui a mené une grande commission d'enquête parlementaire sur l'industrie. On a interviewé des spécialistes de l'industrie, des gens qui ont travaillé au cabinet d'Arnaud Montebourg sur l'affaire Alstom, les Fralib et leurs avocats qui nous ont raconté leur passage en coopérative. Et au bout d'un moment, on a tellement de matière et tellement de points de vue contradictoires qu'on ne sait plus quoi penser nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est un peu perdus. Et là, on se dit, OK, c'est le bon moment pour écrire parce que j'ai pas un avis tranché. Je sens que c'est le Monopoly qui est responsable du truc, mais tous les individus ont raison à leur endroit. Donc il va falloir raconter ces conflits-là et sans rentrer dans quelque chose d'idéologique, juste essayer de décrire comment on en arrive là.
Et dans l'écriture, comment est-ce que, fort de toute cette matière, vous arrivez ensuite à vulgariser et à en faire du théâtre, une comédie pendant 1h30?
On cherche un point d'entrée qui va nous permettre à nous, spectateurs, de tout comprendre. Et ce point d'entrée sur Made in France a été très clair assez vite. C'est Émile, en fait. C'est ce perso qui n'y connaît rien à l'industrie, qui vient là pour se réinsérer parce qu'il doit faire le ménage en attendant de sortir de prison. C'est une semi-liberté. Il espère un jour sortir pour retrouver sa famille. Et là, on lui annonce la fermeture du site. Et du coup, ce type-là, pour sauver sa peau, il doit sauver l'usine. Et donc, il est obligé de comprendre les intérêts de chacun dans cette usine qui ferme.
Émile, c'est nous, il nous prend par la main.
Émile, c'est nous, voilà, c'est ça. Et je cherche souvent ce point de vue qui va nous permettre de rentrer dans la complexité sans jugement, en nous permettant de comprendre tous les tenants et aboutissants. Et pour la démocratie locale avec Coupure, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'identifie pas au maire simplement ou au type qui vient proposer d'installer des antennes et contre loyer grassement payé à des élus locaux parfois. Là, on s'identifie à la famille, c'est une famille d'agriculteurs qui se retrouve avec un dilemme. Soit le maire, qui est le patriarche dans la famille, se retrouve corrompu, mais sauve la ferme avec les loyers des antennes, ce qui est contre ses valeurs, c'est un maire écolo hyper engagé, soit il refuse, mais il laisse sa famille dans la merde. Et donc nous, on est en empathie avec la famille, et on cherche à comprendre comment faire, quoi. C'est quoi ce bordel, comment on s'en sort, et du coup, on s'accroche un peu à tous les maillages.
Là, c'est l'autre pièce Coupure, qui se joue au Théâtre de l'Œuvre en ce moment, jusqu'à la fin avril, et on comprend des tas de choses. On sort moins con, moins dupe, armé, et une espèce de peut-être de manuel de défense intellectuelle dans vos
en
pièces.
En tout cas, je préfère que les gens sortent indignés que rassurés. Je suis pas là pour rassurer les gens. Moi, je préfère dire, bah voilà, c'est quand même ça qu'on a eu en documentation. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, oh, j'ai adoré Made in France, mais ah, la fin quand même, c'est dur, hein, ce que vous dites et tout.
On s'en vénère.
Et je lui dis, ouais, mais ce que j'ai entendu moi, c'est des ouvriers qui m'ont dit, mais en fait, ça se passe mal. Et donc, vis-à-vis d'eux, je me sentirais pas bien de mentir. Mmh. On a quand même une responsabilité quand les gens vous disent « Mais aujourd'hui, la victoire, elle est devenue impossible à cause de choix politiques. Ouais. » Pourquoi raconter que ça pourrait bien se passer dans ce cas-là? Même si on en fait une comédie, ça n'empêche pas, mais on n'est pas là pour rassurer, on est là pour dire.
D'où vient votre intérêt pour le politique et votre conscience et votre engagement?
Je sais pas trop. C'est toujours un peu difficile de raisonner a posteriori, j'imagine.
Ça débattait beaucoup à la maison, enfant, ou pas?
Pas tant, mais j'imagine que ma sensibilité, elle a été forcément nourrie par le fait que mes parents sont vétérinaires, que j'ai eu un lien, du coup, au vivant assez fort. Moi, quand je sortais de l'école, je faisais mes devoirs dans le chenil de mes parents. Donc, j'étais au contact des animaux tout le temps. Donc, j'ai déjà ce rapport-là. Et puis, en fait, quand je suis rentré en école de commerce, j'ai vu que le vivant, on le traitait mal, que les humains, on les traitait mal et qu'on avait dépassé toutes les limites planétaires, mais que c'était dans aucun de nos cours, alors qu'il est quand même assez évident que c'est l'organisation du capitalisme moderne qui fait que on en est là. Ouais. Et pourtant, personne n'en parlait, personne ne le remettait en question. Donc je pense que c'est une indignation progressive.
Donc vous faisiez votre devoir dans le chenil,
ouais.
Et c'est finalement un chat qui vous montre la voie vers
c'est
votre
pas
vocation.
Mal quand même. Il me l'a rendu peut-être. Toutes ces caresses n'étaient pas inutiles.
Samuel Valency, donc on comprend que vous choisissez vos sujets en fonction de vos indignations, mais il y en a tellement. Moi, je m'indigne 10 fois par jour.
En ce moment, il n'y a plus besoin d'écrire, il faut prendre des notes, hein. C'est vraiment terrible.
Vous nous direz à la fin de l'émission quelle sera votre prochaine indignation. Alors okay. On va laisser un peu de suspense. Je voudrais signaler quand même que dans vos pièces de théâtre, il y a toujours une musicienne, une violoniste pour coupure, qui joue notamment la musique d'attente quand il faut joindre la préfecture.
Voilà.
Il y a une batterie, il y a des batteuses dans Made in France pour l'ambiance de l'usine.
Qui symbolise l'usine, les machines.
Spectacle vivant, donc musique vivante. Vous voulez toujours qu'il y ait un musicien, une musicienne au
milieu ? Je trouve que ça crée une dimension supérieure. C'est magique d'être mauvais en tout et de s'entourer de gens beaucoup plus talentueux que soi dans tous les domaines. Quoi. Il y a un truc extraordinaire à s'entourer de musiciens dingues, de comédiens géniaux, de techniciens qui font des créations lumière folles. Et puis en fait, c'est parce que le sujet l'amène. Coupures, le violon devient le symbole du rêve du trio familial, d'acheter le terrain des voisins, de s'en sortir. Et puis Made in France, en fait, comment on représente une usine sur un plateau de théâtre? Mais en fait, une usine, c'est un rythme, c'est du bruit. Et la batterie, c'est génial pour ça, quoi. D'un seul coup, hop, ça y est, on est propulsé. Une batterie joue au plateau, il y a des ouvriers qui s'activent autour, on a compris, on est à l'usine.
Ouais. Vos mises en scène sont très très astucieuses et on va comprendre tout à l'heure aussi pourquoi, parce que c'est d'un point de vue émanation de carbone, vous allez vraiment dans la diminution la plus forte possible. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Bistroscopie. Je suis dans mon bistrot avec l'auteur de théâtre, metteur en scène et comédien Samuel Valency. Ses pièces Made in France ou Coupure se jouent en ce moment à Paris. Et Made in France va tourner dans toute la France, en Belgique et en Suisse aussi. Tout à l'heure, je vous posais la question, comment on prononce votre nom?
Oui.
Samuel Valency. Vous me disiez, père né en Tunisie, votre maman polonaise.
C'est ça.
Quel héritage culturel ça vous confère?
C'est un joyeux bordel, hein. C'est clair. J'ai une moitié de ma famille qui est d'origine juive ashkénaze, qui est très marquée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est des parvenus qui sont venus de Biélorussie et de Pologne, qui se sont rencontrés en France. Enfin, c'est un joyeux mélange, quoi. Donc déjà, de ce côté-là, c'est toute une histoire. J'avais un grand-père maternel complètement fou qui se levait le matin, qui a survécu 2 fois à la déportation et qui se levait le matin en disant des trucs du genre « Ma vraie question, c'est comment je vais niquer le fisc aujourd'hui ?» Voilà. Donc j'ai vraiment des personnages fous dans ma famille. Qui a passé son temps à faire des faillites et des fortunes, un truc rocambolesque avec ma grand-mère qui gérait le merdier alors que c'est un ange, voilà. Et de l'autre côté, du côté de mon père, c'est un peu une histoire de l'antisémitisme moderne parce que, en fait, ils ont été en Espagne, puis sous l'Inquisition, ils ont bougé, et puis en Tunisie, ils ont vécu très longtemps, donc c'est pour ça qu'ils disent Valency.
Mmh.
Et puis, il y a eu la guerre de 6 jours, il y a eu des actes antisémites en Tunisie, et puis ils sont partis vers la France. Donc c'est une histoire un peu folle, très marquée.
Mais aussi traumatique.
Aussi traumatique. Et je me demande toujours dans quelle mesure on hérite des traumatismes de ses parents. Et je me dis que parfois, bah, cette histoire-là, on parlait de mon indignation, d'où elle vient, de comment on traite les gens. Bah, peut-être que ça vient de là. Peut-être que c'est de l'épigénétique, comme on dit. Il paraît que les souris qu'on électrocute quand elles mangent de l'ail détestent l'ail et que leurs enfants, après, pareil. Ouais. Et bah, je me dis, c'est bah, peut-être que cette façon de traiter les gens, elle m'insupporte. Et donc ça crée mon indignation, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est un mélange particulier. Puis c'est aussi des questions très fortes, identitaires, comment on s'intègre dans la société, comment on devient un adulte dans cette société-là, qu'est-ce qu'on doit effacer, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant. Moi, je sais que mon papa, quand il est arrivé en France, on lui a rasé la tête pour qu'il n'ait pas les cheveux trop frisés, qu'il puisse s'intégrer. On lui demandait de ne pas parler arabe, etc. Il est arrivé en France à 2-3 ans, quoi. Donc je pense que c'est quand même des chocs, c'est des chocs assez forts, ouais.
C'était une volonté forcée d'assimilation.
Peut-être, ouais. Et en même temps, c'est drôle parce que j'entendais Gilles Finkelstein sur France Inter dire en fait, on est toujours le juif de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai parce que je me sens juif culturellement de par cet héritage. Mm-hmm. En même temps, je me sens pas très juif religieusement. J'ai pas fait ma bar mitzvah, je suis pas religieux, je suis pas pratiquant. Je fais un peu les fêtes parfois en famille. Mais c'est assez fascinant de voir que bah, après le 7 octobre, tout le monde me demande comment ça va. Alors que je suis un juif plutôt anticolonialiste, avec des positions qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles du gouvernement, et d'un seul coup, je me sens assimilé à quelque chose qui me dépasse complètement. Donc voilà, c'est assez drôle de voir à quel point nos racines, notre histoire familiale, ça nous poursuit tout le temps. Il y a toujours un rappel.
Et parmi vos indignations, celle qui a mené à cette pièce que vous intitulez « Coupure », vous l'avez dit tout à l'heure avant le disque, vous parliez de ce jeune maire écolo d'une petite commune, agriculteur en difficulté, en attente des aides de l'Europe, jeune c'est papa ça. Avec sa famille, et son territoire a été choisi pour implanter des antennes qu'on devine 5G, j'imagine.
C'est ça, on les a pas citées, parce que la 6G arrive, il fallait que la pièce puisse continuer à jouer.
Vrai.
Ça va très vite.
Alors, il va au départ s'y opposer, mais... Trois petits points, je vous souhaite de voir la pièce. Mmh. Elle s'ouvre sur cette question adressée au public. Avez-vous l'impression que votre voix compte ? Pourquoi poser cette question dès le départ ?
Parce que c'est le sujet du moment. C'est-à-dire qu'on vient de dire à les municipales, la participation est en hausse, mais il y a quand même 48%, je crois, de gens qui ne sont pas allés voter. Mmh. Donc quand on sait la guerre que ça a été d'obtenir la démocratie, les actions... violente qu'il y a eu du côté des féministes pour que les femmes obtiennent le droit de vote, etc. Enfin, on se dit, mais quand même, tout ce qu'il a fallu aller chercher pour obtenir la démocratie et aujourd'hui s'en désintéresser, qu'est-ce qui s'est passé ? Et moi, je pense qu'on est dans un moment d'échec de la démocratie représentative, qu'on vit tous une forme de frustration par rapport à cette représentation et que ça mérite d'être raconté. Et on sent d'ailleurs, quand elle dit « Est-ce que vous avez déjà été déçu après une élection ?» Si vous avez été déjà déçu, levez-vous, s'il vous plaît, au début du spectacle. Toute la salle se lève tous les soirs.
Je me suis levé aussi.
Et c'est vraiment fascinant de voir ça, c'est quand vrai. Même, de se dire bah, « On est... »
Bah c'est, et on c'est se sent le... moins seul de voir tout le monde qui se
c'est
lève.
Vrai. C'est ouais. vraiment le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, ouais. comme disait ouais. Churchill. Donc, c'est assez fascinant de voir ça. On arrive quand même à un moment de, on sent de d'épuisement démocratique. Et j'avais très envie de le raconter avec mon co-auteur. On joue avec les codes du théâtre participatif dans Coupure. On fait croire aux gens qui vont participer, mais ils participent pas vraiment. C'est une manière de l'étendre, parce que moi, je trouve que...
C'est une belle métaphore.
Ouais, dans le théâtre participatif, il y a un truc un peu populiste, au sens où on vous fait croire que vous allez décider, alors qu'en fait, tout a été écrit par les auteurs. Et du coup, on s'est dit avec mon co-auteur, mais si on fait ça, eh ben, on va refaire la même chose que la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un « Oui, c'est bon, j'ai décidé ça », et en fait, derrière, il fait encore ce que lui a décidé. Donc on dit « Non, on va pas rentrer là-dedans, on va juste ouvrir les portes au public pour le tendre avec nous dans cette histoire, mais on va pas le faire vraiment décider, parce que c'est pas dans le théâtre que ça joue, c'est quand on sort de la salle.
Oui. » Vous disiez à juste titre que la participation aux élections municipales était en légère hausse, mais qu'il y avait quand même un taux d'abstention qui est vraiment le parti numéro un en France.
Ouais.
Pour autant, ici, c'est la question de l'aménagement du territoire.
Mm-hmm.
Et on sort de cette pièce en se disant bah, le maire, il a quand même pas toujours la main sur cet aménagement du territoire.
Bah, c'est carrément réduit à peau de chagrin, même sur beaucoup de sujets. Les antennes, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Tout ça, c'est des questions d'aménagement qui dépendent de la préfecture. Et en fait, moi, j'avais été assez marqué par la Convention citoyenne pour le climat et le peu qui, malheureusement, en est sorti. Et donc, quand on regardait dans les sujets très concrets, par exemple le moratoire sur la 5G, moi, j'ai rencontré plein d'élus locaux qui voulaient s'opposer localement et qui ne pouvaient pas. Et je trouvais ça un peu fou parce que personne chez les citoyens d'une commune n'élit un préfet. Donc il y a quelque chose d'un peu dingue à se dire, mais si le maire que j'élis moi, il peut pas décider de comment mon territoire est aménagé, et que c'est décidé en haut lieu, ça raconte déjà quelque chose du sentiment de rupture démocratique, et ça explique aussi une partie du désintéressement.
Et du côté des maires, vous avez aussi, en travaillant ce sujet, fait une découverte qu'ils étaient quand même corruptibles.
Bah, c'est pas une découverte que j'ai faite, malheureusement. C'est une commission d'enquête parlementaire qui raconte comment s'est déployé l'éolien et le solaire en France. Et la commission d'enquête parlementaire, elle fait des centaines de pages. Et enfin, plus vous lisez ça et plus vous êtes écœurés. Avec mon co-auteur Paul-Éloi Forget, on s'est dit, mais si on raconte ça avec les éoliennes, c'est tellement connoté politiquement, ça va vachement politiser le spectacle. Donc du coup, on est allé plutôt sur les antennes qui posent d'autres questions, qui sont moins connotées politiquement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes procédés. On a lu des dossiers complètement fous avec des élus locaux qui vendaient leur terrain 3 ou 4 fois leur valeur à SFR pour que des antennes soient installées dessus. On a lu aussi des histoires d'agriculteurs qui étaient conseillers municipaux. Et des journalistes de France 2 arrivent devant eux, leur font « Ah mais alors vous avez installé des éoliennes sur votre terrain, vous êtes conseiller municipal ?» Ouais, ouais, et puis l'agriculteur se justifie en disant « Moi avec le prix du lait cette année je m'en sortais pas, s'il n'y avait pas eu les éoliennes en fait je serais mort. » Et le mec dit « Oui mais vous êtes conseiller municipal, vous avez voté la décision ?» Ouais. Mais c'est une prise illégale d'intérêt ça monsieur. Ah bon ? Et en fait on voit aussi qu'il y a une absence de formation des élus, de connaissance de ces enjeux-là, donc il ne s'agit pas du tout ni de rentrer dans le tous pourri. Parce que c'est pas vrai, il y a des élus qui font des choses formidables. Mmh. Il faut pas non plus rentrer dans ah mais la corruption c'est systémique donc les maires n'y peuvent rien. Voilà, il y a des assos qui font un boulot formidable comme Anticor par exemple, qui essayent de détricoter ça sur le terrain. Mais on peut comprendre le cheminement démocratique qui fait que la corruption arrive. Et ça passe par le manque de formation des élus, ça passe par les pressions locales, ça passe par le manque de pouvoir, le manque de reconnaissance. Tout ça, ça peut jouer en fait.
Mmh. Et les écolos municipales, parce que votre maire, il est plutôt écolo.
Notre maire, il est écolo. Ouais.
Là, au municipal, les écolos, c'est un peu la cata, non ?
Bah, ça raconte un moment de société, hein, malheureusement. C'est qu'on vient de dépasser une 7e limite planétaire sur 9. Et on est en train de se dire qu'on va élire des gens qui défendent une sorte de pétro-fascisme. Enfin, moi, je suis assez atterré quand même par ce qui se passe globalement. Et je suis triste que la participation soit pas plus forte à ce moment-là. C'est vrai que là, je viens de voir hier que Total Energy a renoncé à de l'éolien en mer contre $1 milliard et un engagement à développer des projets fossiles encore avec les Américains. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas lu, quoi ? Ça fait depuis 1972 et le rapport sur les limites à la croissance des Meadows qu'on sait où on va avec ce système. Et alors qu'on vient de nous annoncer des températures records aux États-Unis comme on n'a jamais vu, on nous dit on va mettre plein gaz, c'est le cas de le dire, sur les énergies fossiles. Ouais, il y a un petit problème global là quand même.
Votre théâtre, il est vertueux parce que l'activisme de votre compagnie ne se joue pas sur le plateau, mais dans son fonctionnement. Oui. Donc, c'est-à-dire que quoi, vous faites du théâtre à la lampe à huile ? Vous êtes un amiche des planches ? Comment ça se passe ?
Non, on n'est pas du tout dans ce fonctionnement-là, mais par contre, on essaye de réduire l'impact de la compagnie le plus possible. C'est-à-dire, je dis souvent, le plateau, c'est l'endroit où on présente les conflits, mais nous, dans notre manière de fonctionner, on va essayer de ne pas être totalement schizo et d'adopter des mesures qui font qu'on se sent mieux. Donc, typiquement, on a renoncé à l'usage de l'avion il y a quelques années, mais on est quand même l'une des compagnies qui tourne le plus, donc c'est quand même possible, y compris en France, en Suisse, en Belgique, on arrive à circuler très bien sans avion.
Tout doit tenir dans un tout petit utilitaire,
ouais,
c'est ça,
c'est
tout
ça.
Le décor, 6 mètres cubes.
Alors pour vous raconter l'anecdote, c'est qu'il y a quelques années, sur un spectacle qui s'appelait Mélone et Blue, on a dit on va faire 0 achat de neuf, 0 plastique et une scénographie hyper éco-conçue. Et on est sorti de là avec un décor en bois massif qui pesait 3 tonnes, qu'on pouvait déplacer qu'en semi-remorque, et notre engagement super écolo, il marchait pas en fait. À la fin, on avait un décor qui demandait une quantité folle d'énergie pour partir en tournée. Donc on a raisonné autrement, on a dit en fait on limite l'achat de neuf au maximum, mais s'il faut le faire, on le fait. L'objectif, c'est plutôt de limiter le poids de nos décors, le volume embarqué, pour limiter l'impact en tournée. Et donc, en effet, le décor de coupure rentre dans 3 mètres cubes, et le décor de Made in France rentre dans 7 ou 8 mètres cubes.
Wow. C'est une contrainte qui vous oblige à avoir aussi une mise en scène super astucieuse, et donc le résultat est vraiment chouette.
En fait, ça communique, mais après, c'est aussi des questions d'esthétique, c'est-à-dire que moi, si vous me donnez 200 000 euros pour faire un décor, je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Donc, en fait, mon but quand je fais un spectacle, c'est que le spectateur, il ait le plus de place possible. Et donc, je dis souvent, pour être généreux, faut pas lui en donner. Donc il faut que lui, il ait la place d'imaginer ce que ça va être l'usine. En regardant juste une batterie sur un praticable, d'un seul coup, il voit une usine. Il faut lui faire confiance au spectateur. Il n'a pas besoin de grands décors qui lui expliquent « t'as compris là qu'on est à l'usine, t'as compris là qu'on est dans un ministère et tout ». Non, le spectateur, il n'a pas besoin. Donc comme on peut lui faire confiance, eh ben, on peut aussi penser nos décors de cette manière. Et c'est assez marrant, je regardais avec mon assistant à la mise en scène. Notre tournée a fait autant d'émissions que si on avait accepté de faire une date en avion à La Réunion. Donc c'est quand même incroyable quoi, en termes d'impact, les choix qu'on a fait, le régime végétarien, le poids des décors, le travail qu'on a fait sur l'éco-conception
des œuvres. Et si vous alliez à La Réunion pour jouer, vous iriez à la voile?
J'ai proposé déjà. J'ai proposé et j'ai aussi proposé de céder les droits à une compagnie locale pour que l'œuvre puisse voyager. J'ai joué dans du Steinbeck, j'ai jamais rencontré Steinbeck pour des raisons assez évidentes d'espace-temps, quoi. On pouvait pas se croiser. Donc c'est possible de bosser autrement. Mais pour l'instant, c'est plutôt les diffuseurs qui ont peur. Faudrait trouver d'autres manières de faire. Faudrait voir si.
La SNCF pourrait jouer un rôle pour vos décors.
Carrément, ouais. On les a déjà. Alors, c'est pas la SNCF, mais on a convaincu déjà le festival In et Off d'Avignon. Ça a été un gros boulot d'organiser le fret ferroviaire pour que les décors partent en train à Avignon. Et en fait, c'était une aberration. C'est-à-dire que chaque année, il y a 1500 spectacles à Avignon. Et sur les 1500 qui viennent, il y en a 1100 qui sont le long d'un axe ferroviaire. Et tout le monde prenait la route avec des camions surchargés qui mettaient en danger nos techniciens. Donc à un moment, on fait soyons intelligents, prenons le fret ferroviaire. Et à l'époque, j'avais convaincu Rima Abdulmalak, quand elle était ministre de la Culture, de nous soutenir. Elle a soutenu la démarche. Et donc l'année dernière, les décors de Made in France sont partis dans le train avec les décors du soulier de satin de la Comédie Française du IN et avec une centaine de compagnies. Donc c'est possible de faire autrement quand même.
De toute façon, avec les prix du carburant en ce moment, chacun va être obligé.
Ça devient logique aussi.
C'est vrai. Vous collaborez au Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Vous êtes responsable du pôle culture. C'est un think tank, un groupe de réflexion sur la décarbonation. On peut dire une sorte de lobby du climat et de l'énergie, lobby vertueux.
Citoyen.
Et vous êtes co-auteur du rapport « Décarbonons la culture ». Si on parle de culture en général, aujourd'hui, qu'est-ce qui est efficace et réalisable ?
Il faut regarder d'où les émissions viennent. Et les émissions viennent essentiellement des très très gros du secteur. Donc il y aurait déjà un effort à faire de ce côté-là. Et quand on regarde d'où viennent ces émissions-là, clairement l'essentiel en fait c'est les tournées. C'est les diffusions internationales, c'est les décors gigantesques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Rammstein par exemple, c'est 100 semi-remorques minimum en tournée. Et vous avez deux kits de décors qui sont sur les routes en permanence. Donc ça, c'est des centaines et des centaines de tonnes de carbone en tournée. C'est aussi les passoires thermiques de nos très beaux bâtiments culturels, mais qui n'ont jamais été rénovés ou pensés pour ça.
Vous citez parfois un exemple, Hellfest, où on arrose quand il fait chaud les festivaliers, alors que les agriculteurs à côté, ils manquent d'eau.
Je vais vous raconter une histoire, c'est que le Hellfest, c'est à Clisson, dans un endroit où l'été, les agriculteurs n'ont pas le droit de toucher à l'eau, tellement les sécheresses sont extrêmes. Et juste à côté, vous avez un festival qui réunit des centaines de milliers de personnes dans un endroit qui n'est pas du tout fait pour ça, qui n'est pas desservi par les transports. Du coup, tout le monde vient en voiture de très loin. Ils se vantent d'avoir un parking plus grand que Disney, le parking le plus grand d'Europe, etc. Et eux, ils peuvent arroser à la lance, à incendie, les spectateurs pour les rafraîchir. Et en fait, les pompiers l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, on fait face déjà à un nombre de malaises catastrophiques. Et en plus, on dit, mais là, on n'est même pas sûr que les nappes vont tenir.
Et comme France Inter est partenaire du Hellfest...
Ouais, les partenaires, ça peut jouer un rôle. Donc France Inter peut jouer un rôle.
Voilà, c'est dit et bien entendu. Et ce sera répété
podcast. Vous pouvez.
Qu'est-ce qu'il est devenu ce rapport qu'on vous a commandé, Décarbonons la culture?
Alors, c'est un excellent somnifère à mettre sur sa table de chevet, bien sûr, parce que ça fait 200 pages sur la décarbonation de la culture et c'est très technique. Après, ce qui est bien, c'est que ça s'est transformé en mesures concrètes aussi, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont lancé leur feuille de route de transition écologique. Il y a aussi des scènes nationales, des théâtres nationaux, des opéras qui ont lancé leur plan et d'atténuation des émissions et d'adaptation aussi au changement climatique. L'Odéon vient de sortir un énorme travail sur son adaptation au changement climatique grâce à un travail mené en interne. Donc on voit que ça infuse. Est-ce que ça va à la bonne vitesse? Je pense pas. Mais déjà, ça bouge. Pour que ça aille à la bonne vitesse, maintenant, il faudrait des soutiens publics et des fléchages plus clairs.
Tiens, et quid du théâtre au camping alors, qui était proposé par la précédente ministre de la Culture? Je pense à cette question parce que vous transformez des sujets impopulaires en théâtre populaire, en humour.
Ouais.
Et donc le théâtre au camping, c'est censé...
Là, moi, je trouve qu'on est dans la distinction entre populaire et populiste. C'est-à-dire que, en fait, il y a un truc dont on n'a pas besoin en France, c'est d'événements culturels populaires supplémentaires l'été. Il y a, je crois qu'il y a 7000 festivals de musique en France. Il y a besoin d'aider déjà ceux qui sont en place à s'adapter. Alors quand dans le même temps, on laisse Madame Morançais couper les subventions aux festivals locaux qui apporte tellement à la région des Pays de la Loire.
C'est la présidente de
des
la région Pays de la Loire.
Et vice-présidente d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Quand elle, on la laisse couper les budgets culturels pour les associations locales qui font un travail hyper important pour les territoires, alors que ces gens-là, ils mériteraient d'être aidés pour s'adapter au changement climatique, pour qu'on garde un lien social fort sur le territoire, durable, etc. Et que dans le même temps, on donne l'équivalent de plusieurs semaines de subvention de la Comédie Française pour faire des campings culturels l'été. En fait, moi, ce discours, il ne me va pas, parce qu'en fait, on ne peut pas dire on soutient la culture populaire d'un côté et d'une autre main la détruire. Ouais. Et c'est quand même ça qui s'est passé dans le silence généralisé.
Et s'il ne restait que le théâtre privé, qu'est-ce qui se passerait ?
En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que même à Londres, qui est un système quasi tout privé, il y a des artistes engagés. Moi, si demain, on se retrouve avec un gouvernement qui décide de couper toutes les subventions à la culture, on va se battre pour continuer d'exister. On se battra toujours. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une vraie diversité. Et moi, je suis ravi que le spectateur, quand il se lève le matin, il a le choix entre écouter Europe 1, France Inter, et de faire son propre bonhomme de chemin et de trouver son intelligence au milieu de tout ça. Et de la même manière, j'espère qu'il cohabitera toujours de la recherche dans le théâtre public, des formes très abouties du répertoire du théâtre public comme à la Comédie Française, des formes politiques et populaires, que ce soit dans le théâtre public ou dans le privé avec ma compagnie, mais aussi qu'on puisse se taper une bonne tranche de rigolade devant une comédie au théâtre de la Renaissance avec Isabelle Carré et Bernard Campan. En fait, on a besoin de tout ça. Et c'est la diversité qui fait le lien social et qui fait qu'on vit grâce à la culture dans un grand simulateur où on peut se mettre dans les chaussures de plein de personnes différentes. Et si on perd ça, eh ben on perd notre richesse et on perdra ce qui fait notre capacité à vivre en république et en démocratie, c'est-à-dire la capacité de ne pas être d'accord, la capacité d'avoir le choix et de se nourrir d'échanges. Et en fait, je suis bien mal placé pour dire quelle culture il faut défendre, mais ce qui compte, je crois, c'est qu'on ait accès à une diversité. C'est ça qui nous rend intelligents, je pense.
Samuel Valency, on arrive tout doucement à la fin de l'entretien. Quelle indignation vous anime le plus aujourd'hui qui pourrait se transformer éventuellement en théâtre bientôt ?
Mon indignation principale, c'est mon inquiétude quant à notre capacité collective à continuer à vivre en République, c'est-à-dire dans un espace qui nous appartient à tous. Et là-dessus, moi, je vais être très clair, j'ai beau être très engagé pour l'écologie, si demain l'extrême droite prend le pouvoir et qu'on ne peut plus avoir des opinions diverses, parce que c'est quand même un parti qui parle de privatiser l'audiovisuel public et de le pousser dans les bras de quelques-uns, on se retrouvera avec un secteur très concentré. C'est aussi un parti qui a beaucoup défendu l'idée de supprimer l'intermittence. Donc moi, j'ai quand même un malaise général et je me dis, si demain, on ne vit plus dans une république, mon combat premier, ce ne sera pas de décarboner le fascisme. Il faut qu'on soit d'accord. Moi, mon combat premier, ce sera de défendre le fait qu'on vive dans un espace qui nous appartient à tous et où il y a de la diversité qui est possible. On peut vivre tous ensemble parce qu'on est différents les uns des autres. Et moi-même, je suis de parents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et c'est une richesse. Et donc ça, c'est ce qui me touche le plus en ce moment. Dans quelle mesure est-ce qu'on va encore vivre dans une démocratie républicaine et pas dans une démocratie démagogique, populiste, qui donne raison à la majorité, même quand elle opprime les minorités ? C'est ce qui m'inquiète le plus là en ce moment et je pense que les prochains spectacles parleront de ça, c'est sûr.
Je rappelle que Coupure se joue toujours au Théâtre de l'Œuvre et Made in France au Théâtre de la Renaissance avant de partir en France de façon tout à fait décarbonée.
Le plus décarboné possible
à Avignon, en Belgique et en Suisse. Et j'en profite pour saluer votre troupe parce qu'il y a un rythme inhérent à vos pièces, au fait que chaque comédien joue plusieurs rôles aussi. Ouais. Et je salue donc déjà votre co-auteur Paul-Éloi Forget et puis les comédiennes et comédiens. Et puis les musiciennes à la batterie.
Ouais.
Merci Samuel Valency. On croise
Charline.
Les doigts pour les Molières, que vous soyez,
soyez nommé. Et s'il n'y en a pas, et ben on continuera.
Et on vous suivra.
Merci.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Stéphane Ronxin à la réalisation, Geoffrey Marianne à la prise de son et Maxime Goudard au mixage. Merci aussi à Karine Aubertuig à la documentation. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain à 19h20.